Credo. Une exploration des fondamentaux de la foi chrétienne avec Monseigneur Battu, évêque auxiliaire de Toulouse.
Consubstantiel au Père, de quelle substance parlons-nous ? Nous avons déjà commenté le mot consubstantiel et constaté que ce mot était nécessaire pour exprimer non seulement l'identité spécifique du Fils avec le Père, mais aussi son identité numérique. Alors redisons brièvement de quoi il s'agit. L'identité spécifique, c'est l'identité de nature. Deux êtres humains sont de même nature. Dans la Trinité, le Père et le Fils sont de même nature. Mais le problème, c'est que le Père et le Fils ne sont pas deux dieux, mais un seul Dieu. Il faut donc exprimer non seulement leur identité de nature, mais aussi leur identité spécifique, c'est-à-dire le fait qu'ensemble, ils ne sont pas deux dieux. Voilà pourquoi il ne suffit pas de dire « de même nature », comme on le faisait dans l'ancienne traduction française du Credo, il faut dire « consubstantiel ». Dans le symbole de Nicée, le mot « consubstantiel » complète l'affirmation précédente, c'est-à-dire de la substance du Père. Mais que veut dire exactement le mot « substance » ? Il réapparaît dans des phrases que je n'ai pas encore citées, mais qui font partie du texte dogmatique de Nicée. Les voici. Ceux qui disent, à propos du Verbe, « Il était un temps où il n'était pas » et « Avant d'avoir été engendré, il n'était pas » et « Il est devenu à partir de ce qu'il n'était pas » ou « d'une autre hypostase ou substance » ou ceux qui affirment que le Fils de Dieu est susceptible de changement ou d'altération, ceux-là, l'Église catholique et apostolique, les anathématise. Ces ajouts s'appellent en langage théologique des anathèmes. Alors il ne faut pas fantasmer sur ce mot qui est passé dans des expressions un peu effrayantes, comme « jeter l'anathème sur » au sens de « mettre au ban, ostraciser, rejeter ». À l'origine, « anathématiser » signifie simplement dire à quelqu'un « si tu soutiens une telle affirmation, tu dois savoir que tu te sépares de notre foi ». Anathématiser quelqu'un, c'est donc l'avertir charitablement qu'il raconte des bêtises. C'est donc moins pour le punir que pour lui dire « tu te mets en danger ». En danger de quoi ? De remplacer la parole de Dieu par autre chose qui n'est qu'une invention humaine. On peut accepter ou refuser la parole de Dieu, on est libre de croire ou de ne pas croire, mais on n'est pas honnête si on essaie de lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. En l'occurrence, c'est ce que font Arius et ses partisans dans les affirmations que le Concile de Nicée anathématise. La parole de Dieu dit que le Fils de Dieu est éternel. Par exemple, « Avant qu'Abraham fût, je suis », dit Jésus. Mais les Ariens prétendent qu'il a commencé à exister un beau jour et qu'avant il n'existait pas. Toutes les affirmations condamnées à Nicée reflètent la même idée, en fait. Que le Fils de Dieu serait soumis au temps et au changement. Or, ou bien il est Dieu et il est éternel, ou bien il est soumis à une forme de temporalité avec un avant et un après, mais alors il n'est pas Dieu. Si on comprend les choses ainsi, l'expression « il est d'une autre substance ou hypostase » que Dieu récapitule en quelque sorte toutes les erreurs énumérées dans le texte. Répétons-le, le Fils est bien un autre en Dieu, ce qu'on appellera plus tard une autre personne, mais il n'est pas un autre que Dieu, un autre Dieu ou encore une créature. Mais ces anathèmes ajoutés au texte du Credo présentent un autre intérêt. En condamnant ceux qui disent du Fils « il est d'une autre hypostase ou substance », ils sous-entendent que « hypostase » et « substance » sont deux mots équivalents. Effectivement, ce sont les mêmes mots, le premier est un mot grec, hypostase, l'autre est un mot latin, substance. Le problème, c'est que plus tard, on va utiliser le mot hypostase pour exprimer non pas l'unique nature divine, mais les trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui partagent cette unique nature. On dira donc qu'il y a en Dieu trois hypostases, ce qui peut paraître incompatible avec l'affirmation de Nicée que le Fils est de la même hypostase que le Père. Que se sera-t-il passé entre-temps? Eh bien, « ousia » et « hypostasis », deux mots grecs qui avaient jusque-là le même sens, se seront différenciés. « Ousia » sera désormais du côté de la nature et « hypostasis » du côté de la personne. Mais pourquoi les pères de Nicée avaient-ils proclamé que hypostasis et ousia avaient le même sens? Tout simplement parce qu'Arius ne voyait aucun inconvénient à dire qu'il y avait en Dieu trois hypostases, et même cela l'arrangeait. Ainsi, le Fils pourrait apparaître substantiellement différent du Père. Voilà pourquoi, face à Arius qui affirmait « il y a trois substances », Nicée rétorque « pas du tout, il n'y a qu'une seule substance divine et il ne faut pas distinguer substance et hypostase ». Plus tard, quand le danger arien sera écarté, ousia, substance et hypostase, pourront mettre un terme à leur mariage et voguer chacune de son côté pour enrichir la théologie. On pourra dire alors qu'il y a en Dieu une seule nature ou substance en trois personnes ou hypostases. Et ce sera un progrès, car à trop confondre substance et hypostase, on risquait de tomber dans l'erreur inverse de celle des Ariens, en confondant les trois personnes divines à force de ne pas faire de distinction entre elles. Peut-être vous dites-vous en m'écoutant, il nous a déjà fallu subir le mot substance et l'adjectif consubstantiel, et voilà qu'on y ajoute maintenant un autre mot barbare, hypostase. Alors si vous vous faites ce genre de réflexion, ce qui est bien compréhensible, il est temps que je vous dise que le mot hypostase est un mot tout à fait biblique. La lettre aux Hébreux dit de la foi qu'elle est l'hypostase des biens qu'on espère, la certitude de ce qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la foi ne se contente pas de nous promettre des biens, mais que déjà elle nous les donne en substance, comme on dit. Croire, c'est jouir déjà de la présence de Dieu dans notre vie. Une autre traduction possible de la phrase que je viens de citer est « la foi est la substance des biens que l'on espère, la certitude de ce qu'on ne voit pas ». Encore un indice de la parenté entre les deux mots « hypostase » et « substance ». Mieux encore, la même lettre aux Hébreux emploie « hypostase » dans deux autres passages tout aussi intéressants. Au chapitre 1er, elle nous dit que le Fils est le resplendissement de la gloire de Dieu et l'effigie de son hypostase, ce que la traduction liturgique rend par les mots « expression parfaite de son être ». Deux chapitres plus loin, en 3.14, cette affirmation sur le Christ est étendue aux chrétiens eux-mêmes dans leur relation avec le Christ. Le texte dit que nous sommes devenus participants du Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre assurance première. Ce qu'on traduit faute de mieux par assurance, c'est encore le fameux mot hypostase. Autrement dit, de même que le Fils participe à l'hypostase du Père, de même il nous donne de participer à sa propre hypostase. Au fond, on pourrait presque remplacer le mot hypostase par un mot très courant, réalité. La foi est la réalité déjà présente des biens qu'on espère. Le Fils est la réalité même de la présence du Père. « Qui m'a vu a vu le Père », dit Jésus. Et par la foi, nous entrons nous-mêmes dans la réalité du Christ. Nous ne sommes pas dans des spéculations, nous sommes dans la réalité de Dieu. « Croire », écrivait le futur pape Benoît XVI, « c'est sortir du jeu d'ombre de ce qui va vers la corruption pour atteindre la terre ferme de la vraie réalité », ce qu'exprime le mot « hypostase ». Dans les premiers siècles chrétiens, on n'hésitait pas à dire « nous sommes divinisés ». Dieu, dans son Fils, ne nous donne pas quelque chose de lui, il se donne lui-même à nous. Je pense ainsi avoir apporté un début de réponse à une objection qu'on a certainement envie de me faire. Tout cela ne serait-il pas des jeux de mots pour occuper les théologiens? Eh bien non. Le théologien est comme quelqu'un qui élabore une mécanique de précision. Il doit soigner tous les détails. Mais c'est aussi et d'abord quelqu'un qui prie et qui contemple ce Dieu dont il essaie d'exprimer le mystère. L'intelligence de la foi nous ramène toujours à la foi. Parler de Dieu, penser à lui, a écrit un théologien du siècle dernier, cela porte à l'extrême ce que nous éprouvons déjà pour un être humain aimé. Il ou elle ne peut pas devenir entièrement un objet ou un absent dans mon discours, mais celui-ci lui demeure secrètement dédié. Même si je parle de Dieu à la troisième personne, il est présent dans les marges de ma conscience, et c'est à lui qu'ultimement je m'adresse. Sinon, c'est qu'en réalité je m'occupe d'autre chose que de Dieu. C'est pourquoi Dieu n'est jamais objet, et son nom même ouvre une relation. Et c'est parce qu'il est toujours sujet que les paroles que je prononce pour l'évoquer prennent de quelque façon leur source en lui. » Fin de citation. Demandons à Dieu que ces paroles, pleines d'humilité d'un théologien, puissent être reprises à leur compte aujourd'hui et demain par tous les théologiens et par tous les croyants.